Radio Grand Ciel présente Ensemble, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Jean-François Roland. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Michel Ganivet pour son ouvrage « Le 50e jour » publié aux Amis du Perche. Chers auditeurs, vous connaissez Michel Ganivet, il était président des Amis du Perche de l'Orne. Il a une connaissance du Perche et des Percherons très intéressante. Michel Ganivet, bonjour.
Christiane Blain, bonjour.
Michel Ganivet est un percheron donc, qui a écrit sur le Perche. Et aujourd'hui, nous évoquons son 6e livre. Et je dois dire que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre assez différent de ce qu'on peut lire sur la guerre 14, et c'est d'ailleurs ce qui fait son originalité. En effet, en partant du témoignage de Julia Hainaut, une centenaire qui habite Mauves-sur-Huisne, c'est un petit village dans l'Orne, et cette Julia, elle vous a raconté ses 50 jours de mariage avant que la guerre n'éclate. Vous avez donc beaucoup travaillé, car vous avez dû consulter 25 familles entre le Pin-la-Garenne, les alentours, et tous vous ont livré leurs souvenirs, leurs documents, et vous avez consulté même un manuscrit sur la commune de Mauves pendant cette grande guerre. Alors, tout cela donne un livre vraiment très vivant, documenté, que je crois d'ailleurs indispensable à tout percheron qui veut approfondir sa connaissance et du Perche et de ses habitants. Des gens courageux, patriotes. J'aimerais bien, Michel Ganivet, que vous me disiez comment vous avez connu cette Julia Hainaut qui a vécu des moments très difficiles et qui a quand même été centenaire.
Oui, alors Julia, j'ai eu l'occasion de la rencontrer par mon mariage.
Parce que
c'était une cousine lointaine de mon épouse, mais je la rencontrais très régulièrement. Et puis surtout, elle avait tout de suite remarqué mon intérêt pour l'histoire et puis l'attention que je portais aux personnes âgées. Et
donc, alors, quel âge quand vous l'avez rencontrée?
Moi,
je
l'ai rencontrée
à votre mariage.
Alors, je l'ai rencontrée un peu plus tardivement, de façon prolongée, si vous voulez, à l'occasion de quelques visites que je faisais dans la région de Mauves. Elle avait repéré, en tout cas, mon intérêt pour l'histoire locale. Et elle aussi s'intéressait beaucoup à l'histoire locale. Alors, c'était une histoire qui se limitait, si vous voulez, à ce qu'elle avait vécu.
Oui.
Mais alors, ce qui était passionnant chez elle, c'est qu'elle avait une mémoire d'une grande lucidité, d'une très grande précision. Et c'est ce qui faisait la richesse de son propos. Et tout ce qu'elle a pu me dire, j'ai eu l'occasion de vérifier derrière, parce que j'avais les archives, c'était d'une précision absolue. Alors que souvent, quand on rencontre d'autres personnes âgées, et c'était mon cas, on a des réflexions, on a des observations, on a un peu d'analyse, mais l'authenticité du souvenir est souvent un petit peu édulcorée ou transformée, alors qu'avec Julia, c'est vraiment du brut.
Et alors, comment vous est venu le titre? Parce que j'aime beaucoup le titre. C'est vraiment ça, le titre, j'ai été séduite. Alors, je vais tout de suite vous dire, j'ai été séduite par le titre, 50e jour, qu'est-ce que c'est? Et puis aussi par la couverture, que je trouve très très jolie, parce qu'on y voit des militaires, mais on y voit aussi un mariage avec le drapeau bleu, blanc, rouge et centenaire 14-18. C'est vous qui avez conçu cette photo?
Oui, alors c'est fait avec plusieurs photos, puisqu'évidemment les familles m'ont confié beaucoup de documentation et de photos, et j'avais l'habitude de les passer au scanner. Et ayant une formation d'art graphique aussi, j'ai voulu, sur cette couverture, rassembler un certain nombre de visages et essayer de créer une espèce d'envol.
Oui,
et dans cet envol-là, puisque ça monte un peu sur la droite de la couverture, il y a des visages de soldats qui ont été tués, il y a des visages de soldats qui sont revenus, et avec des destins tout à fait différents. Et en même temps, ce sont des destins qui se sont croisés. Ils sont croisés avant et après, parce qu'ils se connaissaient tous, mais ils se sont aussi croisés pendant la guerre. Je trouve que... Alors évidemment, dessus, il y a le premier couple, c'est Julia et son époux, donc le jour de leur mariage, donc le 16 juin 1914.
Alors peut-être, puisque nous en sommes à cette couverture, vous pouvez peut-être nous citer les militaires qui sont là.
Oui, bien sûr, oui. On va commencer par le haut. C'est Ferdinand Hainaut, tué à Haette au mois d'août 1914. Vous avez Albert Moreau, mort en 1915 du typhus. Il était père de 4 enfants.
Lui, c'était quel village?
C'était Mauves.
C'était Mauves.
Mauves et le Pin-la-Garenne, parce que son épouse était du Pin-la-Garenne. Là, vous avez donc Léon Le Sueur. Léon Le Sueur, alors lui, est revenu, mais il était maire de Corbon. Mais en fait, il n'a jamais exercé vraiment sa fonction, puisqu'il a été élu en 1912 et en 1919, il a préféré se dégager de cette obligation pour s'occuper de son exploitation agricole. C'est son histoire à lui. Puis alors, tout à fait en bas, à droite, vous avez donc Gaston Boudon, qui lui a été tué lui aussi en 1915, et qui était un garçon assez étonnant parce qu'il a laissé une très importante correspondance.
Et comment vous avez choisi ces militaires-là?
Ouais, parce que j'ai trouvé que c'était peut-être eux. D'abord, je vais à le document photographique, parce qu'encore faut-il l'avoir.
Oui, oui. Hein, c'est pas toujours évident.
Et puis, comme ils avaient beaucoup compté dans mon livre. Hein. Alors, un peu sur la gauche, vous avez un premier couple. Oui. C'est donc Paul Guillet et sa cousine, puisqu'il a épousé sa cousine, qui lui a été prisonnier pendant toute la guerre. Et il a ramené les effets personnels d'Albert Moreau, qu'on voit en haut.
Ah oui.
Voilà. Et c'est lui qui est venu raconter à sa veuve. Qui a fait le récit d'Albert Moreau, donc à Marie Moreau, née Déhé. Et ça, c'est absolument épouvantable. Mais ces histoires de la guerre qui vous prend à la gorge, ouais. Vraiment, c'est assez terrifiant. Et puis donc, vous avez Julia et son époux avec quelques membres de leur famille autour.
C'est vraiment très réussi. Et puis, c'est un petit monument aux morts en même temps, puisque c'est vrai que ces familles sont honorées d'être en première page, en couverture de votre ouvrage. Commençons par ce qui est gai. Et je voudrais bien lire justement Le Bonheur, et c'est à la page 30, et on va voir comment ça se passait justement au début du 20e siècle, et c'est Julia donc qui parle, puisque d'ailleurs c'est entre guillemets. En ce début du 20e siècle, malgré l'effritement inexorable de la démographie locale, Mauves forme une communauté vivante, prospère, où l'économie agricole joue un rôle essentiel. En témoigne le comice agricole du 29 août 1909, resté dans toutes les mémoires. Cette année-là, Paul Levaux, le père de Julia, présente une collection de poulains et de pouliches. Il n'obtient pas de prix, mais la journée est magnifique. Mauves est le point du canton où l'élevage est le plus florissant. Le concours y est toujours excellent, tant en jeunes chevaux ou jeunes juments qu'en reproduction bovine de toute nature. Cette année, on a distribué à tous les lauréats des plaques de métal. Le prix en est assez élevé, 2 francs par unité, mais les éleveurs tiennent beaucoup à ces distinctions qui font valoir leurs écuries et dorénavant, cet usage sera continué. C'est vraiment la peinture d'un village où on voit que les gens vivent ensemble, sont heureux.
Alors ça, c'est pas un propos de Julia, c'est un propos, ça résulte d'un document d'archives, si vous voulez, confirmé par Julia parce qu'elle m'a beaucoup parlé des commissaires agricoles. Mais pour Julia, compte beaucoup le monde de l'après-guerre, le monde de sa jeunesse. Et c'est surtout de ce monde-là, c'est ce monde-là qu'elle évoque avec beaucoup de précision. Et je veux dire que les archives m'ont beaucoup aidé aussi, mais à chaque fois, je suis allé aux archives parce que Julia m'avait parlé, en l'occurrence, d'un comice.
Vous voyez,
et on a la chance, avec les archives départementales, d'avoir des nombreuses archives des comices. Donc c'est ça, c'est elle qui, en quelque sorte, m'a donné l'idée d'aller vers ce document.
Je voudrais aussi montrer que Julia, c'est une jeune femme comme toutes les jeunes femmes de toutes les époques. Alors, vous écrivez, page 31, « Julia partage la joie des jeunes filles qui feuilletent le catalogue du bon marché. » Certes, elle n'oserait porter les jolies toilettes des demoiselles de la Jonquière en vacances au château de Landres. Sa garde-robe est beaucoup plus discrète. Une ancienne de la congrégation des enfants de Marie ne doit pas se faire remarquer par des tenues trop aguichantes. Pour aller à la messe ou visiter le comice, le costume de la jeune paysanne ne varie guère. En hiver, elle porte un ensemble gris, un col à dentelle qui retombe sur le revers de la veste aux manches ponctuées de broderies. L'ourlet bas cache la ceinture d'une jupe légèrement relevée, mais pas trop, qui ne laisse voir que les bottines. L'été n'exonère jamais de l'indispensable corset, mais la taille est fine. Julia n'a pas besoin d'une robe affriolante pour aller à l'assemblée. Un sourire lointain, un regard malicieux valent les plus beaux atours. Vous brossez vraiment bien le portrait de cette jeune Julia. Vous évoquez également le pain La Garenne, alors peut-être vous pouvez nous en parler, parce que là je vous laisse, puisque vous habitez le pain La Garenne.
Oui, alors le pain La Garenne, c'est donc juste à côté de Mauves, et les familles de Mauves et du pain sont très souvent liées. C'est le cas, je vous parlais tout à l'heure d'Albert Moreau, qui donc a épousé une fille du pain La Garenne, qui s'appelle Marie Moreau. Son mari, c'est un exemple vraiment significatif, il s'est marié en 1911, et entre 1911 et 1914, ils vont avoir 4 enfants.
Oui. Alors,
vous voyez, il y a donc avec une certaine intensité. Et le quatrième ne naissant qu'après le départ d'Albert à la guerre. Le pain La Garenne, c'est tout à fait particulier dans la mesure où c'est un village qui continue une espèce d'ascension économique. Parce qu'on a créé à la fin de la Révolution cette grande route qui va entre Belém et Mortagne et qui d'un seul coup a 1000 villages sur un axe de communication extrêmement important. Et pendant tout le 19e siècle, le pain La Garenne va connaître une vie économique extrêmement importante. Alors que Mauves, qui se trouve aussi sur une route entre Mortagne et Belém, va connaître au contraire une forte baisse de la démographie. Alors, le pain aussi, hein, au 19e siècle.
Mais il devait y avoir une population très importante pour qu'il y ait une église aussi belle et aussi...
Au pain à graines, oui. Quand l'église a été agrandie, il y avait à peu près 1300 habitants.
Oui, c'est ça.
Et à cette époque-là, tout le monde allait à la messe, bien entendu. Oui, mais ceci étant, à Mauves, c'était à peu près la même population.
Donc, Julia va rencontrer un jeune homme, ils vont se plaire et ils vont se marier. Et je lis page 71, le mariage. On se rendra à pied à la mairie et à l'église en prenant soin d'enjamber les flaques. Il pleut. Déjà, Armand Grenier, le violoneux, après un café bien arrosé, s'est adossé à l'échelle du fenil. Le second barreau lui offre un point de vue plus aisé afin d'ordonner le cortège. Les ordres, d'abord un peu confus, suscitent des volées de commentaires blagueurs. Voilà enfin la noce en ordre de marche. Le violoneux ajuste sur son épaule un violon étincelant. Geste solennel, l'archer se dresse vers le ciel, puis s'abat sur l'instrument. Dans un éclat de rire général, le musicien prend la tête du cortège. Juste derrière lui, Julia donne le bras à son père, les frères et sœurs des mariés leur emboîtent le pas, puis les oncles, les tantes, les cousins, les amis, 84 personnes ravies. Arthur a demandé à Émilie, sa sœur, de lui donner le bras. Derrière le cortège, quelques carrioles transportent les petits-enfants et les invités les moins valides. Sur la banquette de la première, près de Camille Fardois, promue aux fonctions de cocher, Alphonse affiche un regard impénétrable où affleure un léger sourire. Du haut de son perchoir, les yeux dissimulés derrière d'épais sourcils, il observe le défilé d'ombrelles, de chapeaux melons et se souvient peut-être à cet instant avoir quelquefois entendu un air fredonner les jours de noces que Julia a transcrit sur son cahier de chant. Donc, c'est le bonheur. Et en même temps, vous décrivez un mariage vraiment à la campagne. On se croirait un petit peu avec Madame Bovary. C'est tout à fait la campagne.
Là, j'étais dans une démarche un peu particulière. C'est qu'en fait, Julia m'a raconté son mariage, bien entendu.
Oui.
Mais j'avais du mal à obtenir d'elle des détails.
Oui.
Alors, donc, je l'ai interrogée plusieurs fois. Mais malgré tout, avec tout ce qu'elle m'a donné, j'aurais pu aussi faire un travail ethnographique, évoquer ce qu'elle a dit, et puis on en restait à une demi-page. Mais ça ne transcrivait pas le bonheur qu'on voyait dans ses yeux quand elle parlait de son mariage. C'était
exactement
un grand moment de sa vie. Alors je me suis dit, après tout, je suis un historien, mais qui aime bien de temps en temps aller vers le roman. Alors je vais raconter le mariage tel que moi, je le vois, en fonction de ses souvenirs à elle. Et j'ai deux ou trois épisodes comme ça dans le livre, parce que je trouve que un livre d'histoire, ça doit aussi s'ouvrir sur la vie.
Bien sûr.
La meilleure solution pour parler de la vie, c'est peut-être d'aller voir la pratique du romancier.
Puis
alors évidemment, ça ne porte que sur quelques pages, mais ça fait vivre les personnages.
Voilà, là vraiment, on voit que Julia vit dans un monde heureux, qu'elle ne se pose pas de questions, elle vit tranquillement, et ce jour de mariage, c'est un bonheur pour tout le monde, parce que, si j'ai bien compris, dans ces mariages-là, on se rencontre. Et il y a d'autres mariages qui naissent
Il y a beaucoup de mariages à Mauves à cette époque-là. Alors, il y a une phrase de Julia, ça résulte d'une de nos premières rencontres. Elle m'avait dit, on n'était pas riches, mais on n'était pas malheureux non plus.
Oui.
Alors ça, cette phrase-là, je l'ai trouvée absolument extraordinaire. Et ça, évidemment, je l'ai intégrée dans mon propos. Mais cette période-là, elle est caractéristique. C'est surtout à Mauves, on a 7 mariages en très peu de temps.
Oui.
Et il y en avait d'autres de prévus à l'automne. Et alors, le maire s'est commencé à rêver en se disant « Mais chouette, c'est la démographie qui va repartir. Il y a une promesse, quoi,
avec le printemps de
1914. Hein. » Il y aura des mariages. Donc, Paul Guillet, qui est sur la couverture, se marie le 7 juillet. Et enfin, l'ami d'école de Julia, Yvonne Jedon, se marie le 27 juillet.
Oui.
Et ils partent en voyage de noces.
Oui, c'est ça.
Ça illustre bien le séisme qu'a été cette guerre dans la société rurale, parce qu'on imaginait bien qu'il y avait des tensions internationales, mais on n'imaginait pas que ça allait retomber comme ça,
jusque dans les petits villages. D'ailleurs,
quoi.
Dans votre livre, c'est ça. On se dit, on commence à parler de l'affaire Caillot. Vous allez nous en parler un peu. Mais c'est vrai qu'ils n'arrivent pas à penser que ça peut arriver jusque dans un petit village où il n'est question que de bestiaux, de chevaux, de champs à traiter. Et ça va être effectivement un véritable séisme. Alors, cette affaire Caillot, d'abord, ils en parlent.
Alors, ils en parlent beaucoup. Il y a une raison à ça. C'est que, évidemment, Caillot, c'est le député de Mamers. Et il est beaucoup question question de Caillot, parce que Le Perche, le journal Le Perche, qui est un hebdomadaire, a pris position plutôt pour lui, parce que c'est un radical, alors que le concurrent du Perche, qui s'appelle Le Mortagnier, lui a carrément pris position contre Caillot.
Oui, d'ailleurs, alors, ça, excusez-moi, c'est aussi très intéressant parce que Mortagne, qui est une petite ville, mais beaucoup plus importante que tous les villages dont vous avez
dont
parlé,
je parle, bien sûr, oui.
Eh bien, là, il y a deux journaux qui sont vraiment antagonistes.
Ah, complètement.
Voilà,
complètement.
Et sur le plan politique, qui assument vraiment leur...
D'ailleurs, je crois qu'il y aurait presque un livre à faire sur
l'histoire
de la presse à Mortagne,
oui.
Parce qu'il y a vraiment des choses tout à fait extraordinaires. Et en même temps, ça enrichit notre connaissance.
Oui, exactement.
L'opposition, l'antagonisme enrichit notre connaissance maintenant, on le voit en consultant ces journaux. Alors l'affaire Caillot, elle va monopoliser l'attention quasiment jusqu'à l'avant-veille de la guerre.
Et alors racontez un petit peu pour nos auditeurs.
L'affaire Caillot, si vous voulez, c'est une affaire qui commence au mois de mars, lorsque l'épouse de notre député de la Sarthe assassine Calmette, qui est le directeur du Figaro. Hein. Alors évidemment, c'est une affaire qui, sur le plan national, international, est extraordinaire. Et le procès de Madame Caillot intervient fin juillet. Dans les journaux, même dans la presse nationale, que j'ai beaucoup consulté aussi, qu'est-ce qu'on constate ? Il y a des pages entières qui sont réservées vraiment à l'affaire Caillot, au débat, et ce n'est que d'un seul coup qu'on va s'apercevoir, mais attention, la guerre c'est pour demain.
Voilà.
Et d'un seul coup, on va se mettre à couper un peu dans le bas des pages pour se mettre à parler de la guerre dans la presse nationale. Et ça,
ouais.
C'est assez inouï, quoi.
Oui.
C'était un paravent, si vous voulez, qui a fait qu'on n'a peut-être pas toujours vu arriver la guerre.
Oui, ou que les journaux n'ont pas voulu non plus
dire. Ils en ont parlé, il ne faut quand même pas...
Oui, mais pas, pas beaucoup.
Mais il faut se mettre dans la tête des lecteurs de province. Ils ont un paravent comme ça, on leur parle de ça, ils ont leurs propres affaires. Les affaires internationales, c'est très loin.
Et en fait, c'est quand la réquisition arrive que les gens commencent à avoir peur.
Évidemment, c'est quand la mobilisation arrive.
Enfin, alors... pas encore la mobilisation. Si vous voulez, on dit au maire, eh bien, il va falloir...
Quelques jours avant, l'autorité militaire fait passer un message auprès de tous les maires pour leur dire « Attention, on va avoir besoin de chevaux, avoir besoin de plein de choses. » Et là, la guerre n'est pas encore déclarée.
Non.
Ceci étant, les tensions internationales sont extrêmement importantes, puisqu'il y a eu l'affaire de Sarajevo donc, un mois plus tôt. Et là, on a commencé à se poser des questions quand même. Hein. Mais il y a eu des signes annonciateurs, mais en même temps, on a vraiment pris conscience de l'imminence de la guerre que quelques jours avant. Et ça, c'est inouï.
Que là, je vois, si je lis page 112, « À Mauves, Edmond Gasselin, maire, reçoit un télégramme, prière, aviser discrètement les propriétaires d'animaux et de voitures de réquisition de se tenir prêts à conduire leurs animaux et voitures au centre de réquisition au premier ordre qui serait donné. Les gendarmes apparaissent pour s'assurer que le télégramme a été bien reçu. Il était évident que des événements graves se préparaient. » Donc, vous voyez, les gens ne se rendent pas compte.
Absolument
pas. Il faut qu'il y ait le maire de Mauves pour se dire, quand même, ça devient un peu grave. Nous abordons le chapitre 8, et là, c'est août-décembre 1914. Alors, vous pouvez peut-être raconter un petit peu ce qui se passe à ce moment-là.
Oui, alors, ce qui se passe à ce moment-là, c'est d'abord la mobilisation. Et la mobilisation, elle est extrêmement soudaine et elle intervient au moment où les gens sont en pleine moisson. Et ça,
pour la société rurale, c'est primordial, c'est la vie.
La moisson, c'est l'aboutissement
du
travail d'une année. Quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, les gens se rendent compte qu'il faut qu'on se dépêche parce que les hommes vont partir. Et la mobilisation, ça a été un moment extrêmement intense, d'autant plus intense qu'à Mauves, il y a une gare. Les Copains-la-Garenne, il y a une gare.
Eh oui.
Et évidemment, tout le monde part par le train. Les quatre premiers jours, à partir du 2 août jusqu'au 6 août, sont extrêmement importants parce qu'on voit les hommes qui partent par vagues en fonction de leur livret militaire. On voit les campagnes qui se vident de leurs bras. Et ça, c'est vraiment hallucinant. Et les chiffres, parce que là, j'ai voulu faire un peu de statistiques. J'aime pas trop ça, mutuellement.
Oui,
mais là,
si, c'est
comme j'avais fait un travail préalable, je me suis rendu compte qu'il fallait quand même essayer de quantifier les choses. Et à partir de 500 noms que j'avais, j'ai pu retrouver 417 fiches matricules de militaires. Et ça donnait la date exacte du départ.
Ah oui,
vous voyez,
ah oui, intéressant.
Donc à partir de ce moment-là, on pouvait faire une espèce de travail qui montre qu'en 4 jours, les campagnes se vident de leurs bras.
Alors d'ailleurs, je lis page 121. Julia n'oubliera jamais le départ d'Arthur. On venait d'achever de moissonner le blé. Pour autant, la récolte n'était pas toute rentrée. Et loin s'en faut. Il est parti le matin vers 7h pour prendre le train à la gare de Mauve-Corbon et s'en aller à Alençon, où il était mobilisé au 303e régiment d'infanterie. Le plus court du Breuil était de passer par les prés, de traverser en contrebas de la ferme. On a descendu la prairie, franchi la rivière sur une petite planche. On s'est quitté en contrebas de l'église Saint-Pierre. Elle a été notre seul témoin. Nos sentiments à ce moment-là, ce n'est pas facile de les énumérer. Il faut vivre des choses comme ça pour se rendre compte de ce que ça peut faire. Pensez donc, on en était au 50e jour de notre mariage. C'est très émouvant. C'est très beau, c'est bien écrit. Vraiment.
Et là, c'est vraiment le propos de Julia, ça. C'est,
oui, voilà, oui, ça, oui, je... vous l'avez mis en
Oui, oui, oui. Je l'ai enregistré plusieurs fois, d'ailleurs.
Oui, la guerre. Vous nous en parlez un petit peu.
Oui, alors évidemment, on ne peut pas rentrer dans le détail. Mais début de l'année va être extrêmement, extrêmement douloureuse. Et on va assister à des drames épouvantables qui, d'un seul coup, vont faire basculer cette société rurale dans l'horreur.
Alors, effectivement, on va avoir des nouvelles des soldats. Alors, page 146, il y a des nouvelles d'Arthur. Arthur, il a de la chance parce que, si je puis dire, il est soigné à l'hôpital de Roya.
Où médecin... il est blessé dès le début de la guerre. D'autres, malheureusement, ont été tués dès le début de la guerre à la bataille de Hête, qui a été dramatique pour les régiments, le 103e régiment d'infanterie d'Alençon, puisqu'il a été engagé dans cette première bataille et c'était absolument horrible. Mais Arthur, lui, va réussir à se tirer de cette bataille, mais il va être blessé après, à Julbécourt. Alors, il est blessé en même temps que disparaît un de ses amis, qui s'appelle Paul Lerable. Et là, ça va être la première page vraiment dramatique que va vivre la commune de Mauve et celle de Corbon, qui est la commune voisine. Quoi.
Oui, parce qu'en fait, il va y avoir beaucoup de morts.
Il va y avoir énormément de morts. Dans l'Orne, l'essentiel des morts, c'est le début de la guerre.
C'est
il faut
ça.
Voir que, après, les conséquences ont été tellement fortes dans cette population de jeunes hommes que d'ailleurs le commandement militaire va par la suite plutôt envoyer les jeunes recrues des classes suivantes plutôt vers l'artillerie.
Eh oui.
Parce qu'ils se rendent compte que l'Orne a payé un tribut absolument énorme dans les premiers mois de la guerre. Et ça, c'est absolument épouvantable. Évidemment, ça se traduit localement par une espèce de chronique de mort annoncée ou de mort supposée. Quand on voit dans une famille que quand on attend des lettres et puis des lettres qui n'arrivent plus, on se demande bien ce qui est devenu un tel et un tel. Et puis jusqu'à la mauvaise nouvelle. Et à la mauvaise nouvelle, qu'est-ce qu'on voit arriver? Ben, on voit arriver monsieur le maire avec les gendarmes. Et ça crée des moments extrêmement, extrêmement douloureux, extrêmement graves. Puis en même temps, c'est une société rurale qui va faire face avec beaucoup de courage.
Oui.
Avec beaucoup de courage.
D'ailleurs, on voit que les femmes travaillent, elles se mettent vraiment aux travaux des champs. Et il y a une entraide de la part de tous les autres cultivateurs, ceux, les vieux, les femmes, ils viennent aider.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraide. Vraiment, la solidarité, c'est ce qui a sauvé beaucoup d'épouses qui sont retrouvées seules. D'ailleurs, quelquefois dans des conditions dramatiques. Je pense à Marie Moreau, qui se retrouve seule avec ses quatre enfants dans une petite ferme de Mauve. Ouais. Et heureusement, son père, qui est d'ailleurs maire adjoint du Pin-la-Garenne, qui est en charge de la commune en plus, vient pour l'aider. Et Marie Moreau, d'ailleurs, par la suite, va élever ses quatre enfants. Elle ne se remariera pas. Et ce sera vraiment la Madame Courage de l'après-guerre à Mauve et au Pin-la-Garenne.
D'ailleurs, c'est assez terrible parce que on voit que heureusement pour Julia et c'est vous avez bien fait parce que lui il revient et c'est quand même
il revient blessé mais il revient.
Et voilà, il
et,
revient.
Et elle s'estime chanceuse.
Voilà, je lis page 273. C'est hier soir seulement que j'ai eu votre lettre du 21 m'apprenant que Julia avait mis au monde un garçon. Hier aussi j'ai eu une lettre d'Arthur. Je crois qu'au Breuil, c'est leur ferme, ils auraient préféré une petite fille, mais il faut bien prendre ce qui vient. L'essentiel est que tout aille bien. Le petit Marcel va être content d'avoir un gros enfant. Je crois qu'il va converser fort à ce sujet. Vivement que j'aille en permission pour voir ce nouveau neveu. Parce qu'effectivement, les enfants naissaient alors que leur père n'était pas là.
Oui, souvent. Mais là, dans le cas de Julia, le père est là. Et celui qui écrit cette lettre, c'est Paul Levaux, c'est le jeune frère de Julia.
Voilà.
Hein, Julia. Alors, le drame d'Arthur, par exemple, c'est que ses deux frères meurent à la guerre. Et Julia voit partir son jeune frère, Paul, avec beaucoup d'appréhension. Mais heureusement, Paul va pouvoir s'en tirer, en quelque sorte, étant d'une classe plus jeune.
Alors, on évoquera aussi les monuments aux morts, disons beaucoup de noms des percherons qui sont morts pour la France. Moi, je dois dire que ce livre, je l'ai beaucoup aimé parce qu'il y a eu une recherche sur ce petit coin de France qu'est le Perche. Et ça montre finalement des héros, des veuves vraiment courageuses, des parents attristés, des orphelins. Un très bel ouvrage. Merci Michel Ganivet.
Merci Christiane.
See you.